Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé la famille royale encore au complet dans cette lugubre tour du temple où tout a été fait pour qu'elle n'en puisse jamais sortir. Pour la Révolution, il est impensable de tourner la page de la monarchie sans supprimer celui qui en est le symbole. En décembre 1792, Louis XVI est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, le roi est mené à l'échafaud. Marie-Antoinette, qui n'a pas dormi de la nuit et qui est restée habillée, assise sur son lit, ne parvient pas à maîtriser les convulsions nerveuses qui secouent son corps. C'est par des cris d'allégresse venus des rues avoisinantes que la famille apprendra le crime. Louis-Charles, qui s'est endormi dauphin dans l'angoisse, se réveille roi dans les larmes. Héritier légitime de Louis XVI, il est à présent le roi Louis XVII, mais un roi sans sacre ni couronne, enfermé par décision de la Convention nationale au deuxième étage de la sinistre prison du Temple. L'enfant, façonné par l'éducation royale et les habitudes de la plus prestigieuse des monarchies d'Europe, n'a alors que 7 ans. Celui que les historiens du XIXe siècle surnommeront « charmant enfant » est un blondinet vif et enjoué et possède la candeur et la spontanéité propres à son âge. Mais il se distingue par cette marque unique d'un héritage millénaire, 1000 ans d'une histoire qui s'était appliquée à tailler et forger ce singulier destin qui est celui d'un monarque français, représentant de Dieu auprès d'un peuple tout aussi singulier et dont il a la charge sa vie durant. Mais pour l'heure, il ne règne sur rien, si ce n'est l'empire défini par le deuxième étage de ce donjon. Empire où il n'a pour unique compagne de jeu que sa sœur, et où pénètre encore, par une grâce qu'on lui fait, un ray de lumière passant par l'abat-jour des fenêtres de sa geôle. Durant les mois où sa mère l'accompagne encore, le petit roi Louis XVII pose sur ses geôliers un regard sans mépris ni méfiance. Ils sont cordonniers, artisans d'humbles conditions. Incapables de les juger selon leur rang et leurs idées, il ne les prend que selon son cœur. En ces premières années du règne de la liberté révolutionnaire, l'enfant mis au cachot sait qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse et qu'il faut traiter les autres comme on voudrait être traité par eux. Nombreux sont les commissaires de garde au temple qui sont sidérés par la douceur, l'attention et la simplicité de ce garçonnet à leur égard. En ces premières années du règne de l'égalité, la Révolution a mis au cachot un enfant qui a appris de son père que tous les hommes sans exception lui sont égaux et que tous les hommes ont besoin les uns des autres. Quelques jours après la mort de son père, l'enfant n'a sans doute pas entendu ce commissaire de la commune dire à sa sœur
« Ton père me fait pitié, mais il est le fils du tyran, il doit mourir. »
Un tyran qui avait pourtant écrit
« Le premier principe de tout bon gouvernement, c'est l'humanité, la bonté, la bienfaisance. »
La veille de son exécution, Louis XVI a demandé à son fils de pardonner à ceux qui le faisaient mourir. Il a envoyé une lettre à son frère, le comte de Provence, lui confiant la régence du royaume et concluant
« L'héritage que je vous laisse est teint de mon sang. Ce sang vous crie clémence et pardon. Votre frère vous en prie, votre roi vous le commande. »
Louis XVI refusa tout recours pour
« ne pas semer le trouble et ajouter des malheurs à son peuple. »
En ces jours qui suivent la mort de celui qu'on appelle alors Louis le Dernier, la famille du défunt ne veut plus descendre dans le jardin pour ne plus passer devant la chambre du roi martyr. C'est l'hiver, et à 50 mètres de haut, depuis le sommet du donjon, le regard peut embrasser tout Paris. À quoi songe le très jeune Louis XVII, tenant la main de sa mère et regardant l'immensité citadine plongée dans le silence? Depuis ce point de mire, ils peuvent voir, au loin, la place de la Révolution, où fut tranchée la tête de leur père et mari. Mais ils n'ont pas vu le mouchoir qui nouait les mains de Louis XVI sur l'échafaud. Ils n'ont pas entendu ces derniers mots. Qui d'ailleurs aurait pu les entendre? Le roulement du tambour recouvrait tout. Le 9 juillet, 6 mois après la mort de Louis XVI, nouveau calvaire pour Louis-Charles, il est arraché des bras de Marie-Antoinette après 1 heure de lutte durant laquelle les hurlements de la reine et les sanglots de l'enfant conduisent les geôliers à menacer la forcenée de la tuer sur le champ. On parvient, non sans peine, à l'enfermer au 2e étage dans l'espace qu'occupait Cléry, le fidèle valet de Louis XVI. Le but secret de cette séparation est de préparer la condamnation à mort de Marie-Antoinette sans que Louis XVII n'en sache rien. Louis XVII est à présent le seul occupant du 2e étage. L'enfant refuse toute nourriture, reste sur son lit, appelle sa mère, crie, sanglote, en vain. Parfois, on lui accorde le droit de monter sur le chemin de ronde du donjon. Sa mère et sa sœur guettent son passage par l'escalier de la tourelle. Louis XVI supprimé, la Révolution entreprend de faire l'éducation républicaine de Louis-Charles. On lui donne un tuteur, Antoine Simon, savetier de 57 ans, robuste, inculte, grossier et alcoolique. Voisin de Marat, qu'on appelle aussi l'ami du peuple, qui est député montagnard, et qui s'est distingué pour avoir exigé qu'on vote la mort de Louis XVI à main levée. Eh bien, Simon a noué avec lui une grande complicité qui lui a valu d'être admis au conseil de la commune. Nul doute que l'ignoble député, celui que Chateaubriand surnommait l'embryon suisse, je parle là de Marat, a su reconnaître en cette crapule bas du front l'incarnation du peuple auquel il dévoue sa vie politique. Plus prosaïquement, Simon possède la plus glorieuse qualité aux yeux de la commune. Il hait le roi et la monarchie d'une haine parfaite, définitive et sainte. Sans doute pour rater la nouvelle éducation de l'enfant, Simon le force à boire du vin. Ses larmes, ses cris, sa terreur, rien n'adoucit le tempérament du cordonnier. Chemin faisant, l'enfant répète les chansons ordurières qu'on lui enseigne, tandis que durant toute l'année 1793, l'ouragan de la terreur souffle sur la France, l'enfant prisonnier du temple reste l'ange annonciateur de la monarchie à renaître. Son nom accompagne les signatures de tous les chefs de Vendée des armées de la coalition. Son nom se trouve gravé jusque sur les sabres des rebelles ou brodé sur les redingotes ou les guenilles des paysans de la Loire. Pour la Révolution, reste encore à régler le cas de Marie-Antoinette. Mais pour la condamner à mort, on manque un peu de chefs d'accusation. C'est chose faite à l'automne 1793, date à laquelle on tient enfin le motif qui va permettre d'envoyer la reine à l'échafaud. Le cordonnier Simon, avec la complicité d'un autre révolutionnaire bien connu, Hébert, le fameux père Duchesne, eh bien Simon a imaginé un plan ignoble. Il s'agit de faire dire à Louis-Charles que sa mère s'est rendue coupable d'inceste sur lui. Durant des semaines, Simon va infliger à l'enfant d'interminables interrogatoires. Le 6 octobre, enfin, on fait comparaître le petit Louis XVII. L'interrogatoire révèle aux oreilles effarées le crime innommable qu'a commis la mère contre l'enfant. D'une écriture fébrile et maladroite, l'enfant y explique que sa mère l'a initié à de honteuses pratiques sexuelles. Le 7 octobre, on demande au fils Capet de confirmer sa déposition devant sa sœur et sa tante. Un commissaire témoin de la scène a raconté avoir vu ce petit garçon assis, balançant ses jambes sous un fauteuil trop haut pour lui, répondant d'une voix tremblante aux questions que lui posaient les commissaires, affichant une mine défaite et terrorisée. La reine et sa belle-sœur, abasourdies, vont devoir écouter jusqu'au bout, en présence de commissaires trépignants d'une joie sauvage, les accusations de leurs fils et neveux. Cette extorsion de fausses confidences est l'apothéose de l'entreprise de la Révolution pour assouvir sa haine de la famille royale. Aucun expédient n'a été négligé. Simon enivre l'enfant chaque jour et lui donne des journaux érotiques à lire pour stimuler son enthousiasme. On va pouvoir enfin, comme le souhaitait Hébert, le fameux père du chêne, connu pour ses publications ordurières, raccourcir la guenon autrichienne. Et le tout sur la base des déclarations de son propre fils, son petit chou d'amour, que l'on a soigneusement emputiné. Le 19 octobre, la reine est publiquement accusée d'inceste. Elle garde une dignité éblouissante tout le long du réquisitoire. Puis elle prononce cette parole inoubliable. « La nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères !» Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée. Louis XVII ne le saura pas. Désormais orphelin, l'enfant est à présent un être psychologiquement détruit et physiquement très affaibli. Plus petit que la moyenne des enfants de son âge, son état de santé est alarmant. Il a de la fièvre, il tousse, il ressent de constantes douleurs abdominales, symptômes qui vont bientôt révéler une tuberculose osseuse, maladie qui a déjà emporté son frère aîné. Dans la pièce sombre et humide où il est enfermé, l'air ne pénètre pas puisque la fenêtre n'est jamais ouverte. Un poêle, alimenté par un tuyau aménagé dans l'antichambre, distribue une chaleur tiède et moite venue de la cheminée de la chambre voisine. Dans le silence du cachot, il agonise lentement. Trois fois par jour, le garçon servant des cuisines vient apporter son repas. Un brouet, comprenez, une sorte de soupe, du pain, de l'eau. Il fait sombre et la saleté s'accumule. Il a totalement renoncé à l'hygiène. Un geôlier a même dit un jour
« Tout est vivant ici. »
Tout est vivant ici. Les araignées, les rats et ses propres excréments qu'il n'a plus le courage de porter aux toilettes de la tourelle. Il en a peur de ses rats, de ses araignées. La nuit, il n'ose plus s'endormir. Il a été assez ingénieux pour placer un chapeau rempli de victuailles assez loin de lui pour attirer les bêtes et être un petit peu plus tranquille. Mais malgré tout, il passe ses nuits assis sur une chaise, accoudé au bureau, et il s'endort ainsi. En 1794, la terreur révolutionnaire s'apaise. Danton, Robespierre, Carrier, Fouquier-Tinville sont envoyés à l'échafaud. Le nouvel homme fort du régime est Barras. De stature imposante, ses traits sont généreux. Son regard a cette douceur dont la Révolution a tant besoin après les figures glaçantes de Saint-Just et de Marat. En juin, il décide d'aller voir le petit Louis XVII. Il se présente à la tour du Temple. On lui ouvre la porte de fer, restée close pendant 6 mois. Le spectacle est accablant. Puanteur et crasse sont insoutenables. Et l'odeur se répand dans l'antichambre qui donne sur l'escalier et à tous les étages. Dans la pénombre, il devine le garçonnet recroquevillé dans un trop petit berceau, les yeux ouverts et la face figée par cette inquiétante rêverie des abattus. Exténué, l'enfant refuse de s'alimenter et ne connaît plus le sommeil. Pour la première fois depuis longtemps, le dernier des Capétiens entend une voix dénuée de violence et d'agressivité. Barras lui demande « Pourquoi dormez-vous dans ce berceau trop petit pour vous ?»« Je préfère le berceau au grand lit. Je ne me plains pas de mes surveillants. » Ébranlé, il souhaite savoir si le captif éprouve quelque mal. Celui-ci pointe son genou et sa tête. On coupe son pantalon pour laisser paraître le genou boursouflé. Un groupe de médecins, parmi lesquels se trouve le célèbre chirurgien de Sceaux, juge l'état du prisonnier très sérieux. Rongé par la gale, son cou présente une plaie suppurante. La teigne infeste ses cheveux. Ses jambes et ses bras sont d'une longueur disproportionnée. Les ongles sont devenus des griffes. Barras s'emporte contre les gardes et exige qu'on nettoie la chambre. Louis-Charles ne touche plus à ses repas. Barras lui demande doucement
« Pourquoi ne mangez-vous pas ?»
L'enfant répond « Je veux mourir. » Dans la chambre, on enlève certains abat-jours, on ouvre les fenêtres. L'air et la lumière s'engouffrent dans la geôle pour la première fois depuis 2 ans. Le bois du lit est nettoyé, le matelas infesté de punaises est descendu et brûlé. Des draps et du linge blanc sont apportés. On revêt l'enfant d'habits neufs. On enlève la lourde porte de fer et l'on remet la porte d'origine. En mars 1795, un commissaire dira en quittant la tour
« Ce gamin n'a pas 6 décades à vivre. Crois-moi, citoyen, il deviendra imbécile ou idiot s'il n'est pas crevé. »
Au matin du 7 juin, le docteur Pelletan, assisté d'un autre médecin, se présente au temple. L'état de Louis XVII est critique. La veille, il a perdu connaissance. Les deux médecins s'étonnent qu'on laisse le malade entièrement seul la nuit. Ils exigent l'attribution d'un garde-malade. On se penche sur l'enfant.
« Tu souffres encore ?»«
Moins. » Il pleure.
« Que se passe-t-il ?»
Silence, puis toujours seul. Le 8 juin, au matin, les deux médecins sont au temple. L'enfant ne peut plus tenir sur ses jambes et demande à rester couché. Les symptômes qu'il présente sont effrayants. L'un des gardiens s'assoit auprès du garçonnet.
« Je suis malheureux de te voir comme ça. »
« Rassurez-vous, je ne souffrirai pas toujours. » C'est le calvaire. Un court instant, l'enfant paraît en meilleure forme. Il croit entendre de la musique, une musique qui le ravit. Pendu au cou de son gardien, il souhaite s'exprimer. Il regarde un instant par la fenêtre en souriant. Le corps frêle semble s'alourdir soudain puis devient inerte. C'est la fin. À 2h15, l'innocent du temple a cessé de souffrir. Un ancien commissaire de la commune, revenu dans la tour du temple vidée de ses occupants, lira ce mot que Louis-Charles a écrit sur les murs de leur geôle. « Ô mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. » Entré pour se souvenir, il en ressort en réprimant des sanglots. Louis XVII mort, la Révolution n'en aura pas pour autant fini avec les Capétiens. Le frère de Louis XVI, le comte de Provence, remontera sur le trône après la chute de Napoléon, sous le nom de Louis XVIII. La monarchie, pourtant, finira par disparaître, laissant sur la République la tache indélébile du martyr d'un enfant, le petit Louis XVII, l'enfant du temple. C'est la fin de ce double épisode consacré à l'enfant du temple, le petit Louis XVII. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. La bibliographie de cet épisode vous attend comme d'habitude sur le site d'Europe 1. À très bientôt.